dit que j'étais faite pour une drôle de vie. J'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Je te verrai tous les jours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras?
Médecine à deux vitesses, en tout cas pour moi dans mon quotidien, c'est que effectivement la prise en charge à l'hôpital notamment, l'hôpital public, elle s'est considérablement dégradée depuis une dizaine d'années et que ça répond plus à la mission de prise en charge des gens en soins. Et qu'effectivement, quand on a des créneaux dans des cliniques, avec des référents avec lesquels on travaille, et ben on a plus facilement accès à la prise en charge de nos patients quand on passe par l'intermédiaire du secteur privé.
Vous êtes généraliste, c'est ça?
Ouais. Moi, je suis généraliste. J'ai une double activité. Je suis généraliste libéral à Marseillan. Et un jour par semaine, je travaille en équipe mobile de soins palliatifs, mais dans une clinique privée. À Montredon-les-Corbières, là, à côté de Narbonne. Donc, j'ai deux activités. Mais oui, je suis généraliste libéral 3 jours par semaine.
D'accord. Ça veut dire que concrètement, par exemple, quand vous avez un patient qui a besoin de consulter un spécialiste, il lui faut 2 mois, 3 mois pour avoir un rendez-vous, c'est ça?
Ben, minimum, suivant les spécialités. En dermatologie, dans mon secteur à moi, c'est les rendez-vous se prennent. Alors, je ne parle pas là du secteur public, je parle juste de l'accès aux spécialistes, qui sont libéraux aussi. Il y a 2 ouvertures de calendrier, une au 2 janvier et une au 2 juin. Et dans les 3 premières heures de la journée, qui sont de 1h du matin, de minuit à 2h, sont pris.
Ouais.
Enfin, donc du coup, voilà, vous êtes la nuit, vous avez à tout prix votre rendez-vous chez le dermato, et du coup, ben, vous vous levez dans la nuit pour essayer d'avoir un rendez-vous pour le semestre à venir. Ou vous prenez un rendez-vous avec votre médecin généraliste qui n'a pas beaucoup de place pour que celui-ci motive une consultation auprès de la secrétaire pour l'intercaler dans un pseudo rendez-vous d'urgence. Mais ça, c'est que si vraiment la lésion en question justifie un rendez-vous d'urgence. C'est-à-dire que moi, pour garder le lien de confiance avec mes confrères et consoeurs, je n'appelle pas pour le grain de beauté disgracieux.
Oui, voilà. Bien sûr. Mais vous pouvez intercéder quand même en faveur de vos patients en fonction de l'état de la situation.
Oui. Ça, je peux intercéder, oui, bien sûr. Ouais. Alors, ça me prend du temps, voilà. Et il faut faire un courrier et il faut motiver vraiment l'avis. Mais oui, je peux le faire, bien sûr que je peux le faire.
Et donc ça a quelles conséquences?
Ben, ça a une conséquence, c'est que ben, moi, je le fais gratuitement. Ou alors, il bloque un rendez-vous. Et que du coup, dans l'esprit des gens, en fait, je suis j'ai un peu des fois l'impression d'être un distributeur de lettres d'adressage aux spécialistes, en fait. Les gens, comme ils savent que le rendez-vous sont loin, et ben souvent, ils ont pris en amont le rendez-vous avec la secrétaire. Ils ont intercalé un rendez-vous avec avant, et du coup, parce qu'ils savent que je leur ferai la lettre, enfin, ils viennent pour me demander la lettre d'adressage, et c'est pas moi qui décide de l'adressage au spécialiste, en fait. Ça, c'est assez... alors, c'est pas une généralité, hein, mais la déviance de ce système-là, du coup, elle amène à ça, c'est-à-dire que les gens ont peur de pas avoir le suivi annuel, par exemple, cardiologique, de ne pas avoir accès à leur cardiologue, les gens âgés souvent, et ben du coup, ils anticipent les rendez-vous, et du coup, ils arrivent, et lors de leur renouvellement, ils me demandent en plus la lettre pour le suivi, alors que la lettre de suivi du cardio, c'est pas forcément une obligation. Si le cardiologue dit « venez toutes les années me voir », pas obligé à chaque fois d'avoir la lettre du médecin traitant qui réadresse toutes les années.
Et dans votre pratique de généraliste, comment vous appréhendez la situation, les évolutions législatives,
les... Alors,
les problématiques qui se posent par rapport au simple fait de faire votre métier comme il faut, quoi.
Alors, je suis inquiète, mais je suis pas une militante, donc je ne sais pas me rebeller contre le système, mais c'est comme ça, c'est inhérent à moi. Enfin, voilà. Et du coup, je ne pratique pas de dépassement exceptionnel là, comme une partie de la population médicale a fait déjà depuis un an, de faire payer 30 euros la consultation de médecine générale au lieu de 26,50 obtenu l'année dernière. Évidemment, ce que je trouve ça ridicule d'être. Quand je vois la qualité, alors c'est peut-être. Ça peut paraître orgueilleux ce que je veux dire, mais quand je vois la qualité du travail au quotidien, effectivement, 26,50, c'est vraiment se foutre un peu notre gueule, mais je ne peux pas pour autant faire porter ça aux patients, donc je reste à 26,50, même si dans le coin, tout le monde est passé à 30, là, moi, je suis la dernière résistante. Voilà. Mais en fait, enfin, moi, je trouve toujours autant de plaisir à exercer la médecine, donc. Et j'essaie de le faire au mieux, même si des fois je ronche, mais je continuerai à la faire moi, mais j'ai 53 ans, voilà, et il me reste une dizaine d'années, et je pense que je vais rester tranquille une dizaine d'années de plus, et continuer à exercer comme je l'entends, mais je suis plus questionnée sur l'arrivée de mes consoeurs et confrères pour la suite, voilà, et... leurs préoccupations ne sont pas les miennes, en fait, et leurs contraintes non plus. Et ils ont un souci de qualité de vie au travail que moi, je n'avais pas trop, en fait. Et que, du coup, dans la qualité de vie au travail, ben, ça va aussi par la rémunération, forcément. Et que voilà. Ce qui est compliqué, c'est de voir arriver... Là, actuellement, j'ai un interne avec moi pour 6 mois qui est un jour par semaine dans mon cabinet. Et c'est vrai que quand aujourd'hui, par exemple, c'est typique quand il y a un patient qui n'est pas venu et il m'a dit, est-ce que tu vas lui faire payer la consultation la prochaine fois? Enfin, et du coup... J'avais pas du tout pensé, moi, à potentiellement faire payer la consulte qu'il avait mobilisée sans l'utiliser aujourd'hui, quoi. Voilà. Mais bon, enfin, ce qui pourrait m'inquiéter, c'est qui est à la fois le fruit du système actuel et aussi de l'évolution de la société, le rapport au travail de toute de la génération du moment. Parce que c'est dans toutes les... J'écoute aussi bien des ostréiculteurs, des vignerons, des profs, des banquiers, enfin, au cabinet. Et le rapport au travail n'est plus du tout le même.
Tout à fait.
Ça sera pareil au niveau médical. Et c'est juste ça qui questionne par rapport à, en tout cas, à ce que les gens attendent de la médecine. Je pense que les gens sont exigeants avec les soignants parce que déjà ils ont envie d'être soignés, c'est la première chose, mais ils ont aussi été habitués à l'être bien et rapidement, et que c'est difficile de maintenant pouvoir répondre non, je peux pas vous prendre pour une urgence avant la semaine prochaine, alors que avant, sans rendez-vous, avant Covid, sans rendez-vous, je prenais les gens, à peu près le même nombre qu'aujourd'hui sur rendez-vous. Je ne veux pas dire que j'en prenais radicalement plus. Mais du coup, les gens choisissaient quand ils venaient. Ils n'avaient pas de frein de prise de rendez-vous. Et je pense que c'est ça qui donnait l'impression de liberté. Voilà. Il y avait moins de contraintes pour accéder à un médecin.
Parce qu'au-delà de la dimension économique dont vous parliez, il y a aussi la dimension du temps de travail. Je regardais des chiffres. Là, on est presque, chez les généralistes, il y a pratiquement 40% à vérifier, mais de généralistes qui travaillent aujourd'hui à temps partiel.
Oui, bien sûr, bien sûr. Ah oui, je pense qu'on n'est pas loin de ça. Et je pense que c'est aussi ce qui fait qu'on va garder une qualité d'exercice. Ouais. Je pense, oui, qu'il y a de ça. Mais effectivement, c'est très nouveau par rapport à l'idée du médecin de famille qu'on avait de la génération d'avant.
Oui, qui ne comptait pas 16 heures, 60 heures par semaine, qui partait la nuit.
Et la nuit était appelée se déplacer. Enfin, voilà, bien sûr.
Face à cette évolution des mentalités, hein, qui est liée aussi, comme vous le disiez, à une dimension générationnelle, est-ce que le système de santé est en capacité de s'adapter, selon vous?
Ça, je... Je doute qu'ils soient en capacité, le système en lui-même, comme il est fait maintenant, qu'ils soient en capacité de s'adapter à ça, ouais, je doute quand même. Parce que malgré tout, les gens sont. Enfin, il va y avoir un temps de décalage entre la capacité d'évolution et d'adaptation du système de soins par rapport à celle de l'éducation de la patientèle. Elle n'aura pas le même rythme. Donc, il va y avoir là une période où le système va essayer de s'adapter, mais le système, il va faire de manière plus radicale que l'humain, la patientèle. Et que là, il me semble quand même qu'il va y avoir un moment difficile. Et moi, ce qui me questionne plus, c'est parce que nous, on nous bassine avec l'éducation qu'il faut faire aux patients. En plus de les soigner, il faut les éduquer, enfin, sur le rapport à la consommation de traitements, de machin, de trucs. Mmh. Mais ce qui me questionne plus, c'est comment on va faire pour éduquer tous ces gens au fait que oui, ben vous n'irez consulter un médecin que au bout de tant de temps d'un premier traitement, enfin d'une première prise en charge thérapeutique que vous aurez choisi tout seul.
Oui, oui, parce que maintenant il faut qu'on fasse beaucoup de choses tout seul en tant que patient.
Exactement, exactement. Oui, oui. Et ça, c'est pas donné à tout. Bah, c'est pas donné à tout le monde. Mmh. Bon, moi qui ai beaucoup de personnes âgées dans ma patientèle.
Ouais.
Doctolib, ils n'ont pas d'ordi, hein. Enfin, j'en ai 25% qui n'ont pas d'ordi.
Ouais.
Et du coup, prendre un rendez-vous, c'est compliqué. Alors, ils appellent la secrétaire qui à distance, qui une plateforme téléphonique, qui va les noter sur Doctolib. Mais souvent, ils frappent à la porte pour prendre un rendez-vous, en fait. Mmh. Donc, parce que bon, j'ai pas de secrétaire physiquement présent. Mais voilà, je travaille encore à l'ancienne méthode. Ça va changer, mais pour l'instant, c'est encore comme ça. Et du coup, les patients âgés, alors évidemment, ils n'ont pas encore 30 ans d'espérance de vie devant eux, donc ça. Mais j'ai du mal à imaginer des gens qui socialement sont défavorisés, avec des préoccupations de qu'est-ce qu'on va manger le prochain repas, et accès, et vont pouvoir organiser aussi bien leur prise en charge médicale que ceux qui n'ont pas ces soucis-là. Ça me questionne beaucoup.
Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie. J'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Je te verrai tous les jours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras?
Et face à la fois à la numérisation de la société, à laquelle vous ne coupez pas, et à l'évolution économique du système de santé, on peut s'attendre à des modifications dans la relation entre médecins et patients, non?
Ah bah oui, ça c'est sûr. Parce qu'en fait, oui,
la dimension
la présence
humaine.
De la téléconsultation dans la prise en charge des gens va faire que vous allez avoir accès à un algorithme qui va calculer pour vous. Enfin, il n'y aura pas un humain derrière la décision qui va vous aller à vous. Vous aurez une réponse à un symptôme. Vous n'allez pas avoir forcément une réponse à l'ensemble de signes. Moi, où je me dis que je suis dépassée, là, c'est vraiment... C'est que, mais, et je ne sais pas si c'est bien, c'est sans jugement de valeur toujours, mais je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais sur une même pathologie, dans la même journée, un gastro-diarrhée-vomissement, je ne mets pas le même traitement à deux personnes d'affilée, en fait. Mm-hmm. Ou pas parce que j'ai plus d'intérêt avec tel labo ou un autre, je peux traiter en générique. Donc ce n'est pas ça la question. Mm-hmm. Mais c'est que par rapport à l'histoire de la personne, de ce que je sais, de sa facilité à prendre tel truc. Enfin, j'ai des choses qui rentrent en ligne de compte que la téléconsultation ne prendra jamais en compte. Mais je ne sais pas si c'est mieux ou moins bien. Mais en tout cas, c'est ce que je...
Ça paraît quand même assez primordial si on considère que on est acteur aussi de sa guérison. Et le fait qu'on attribue aux pharmaciens notamment des prérogatives qui auparavant étaient les vôtres, vous l'appréhendez comment?
Alors, je parle que en mon nom, on est bien d'accord.
Ouais.
Parce que ça ne me pose aucun problème, moi. Mais en tout cas, je me sens pas dépossédée de ma fonction médicale parce que le pharmacien va pouvoir vacciner. La seule, ce qui est questionnant juste, c'est de se dire que la valeur de notre acte médical, on nous en a bassiné toutes nos études et sur la responsabilité, tout ça, on est responsable évidemment de nos actes médicaux, mais dans un moment de crise économique, eh bien, on peut faire sortir cette responsabilité. Enfin, c'est certains gestes qui semblent à moindre risque. On peut les faire sortir du cadre pour répondre à une urgence. Hein, et sans penser le fond, en fait. Moi, ce qui me dérange juste là, c'est que les solutions trouvées, ce n'est pas des solutions de fond où on essaie de nous inviter aussi, nous, en tant que médecins, à participer à la réflexion du changement du système de soins. C'est qu'on attribue des fonctions. Alors certainement il y a des médecins qui ont réfléchi, hein, c'est pas que des administratifs qui ont pris des décisions, mais ce que je veux dire, c'est que, enfin, je sais pas si vous avez saisi la différence, c'est que du coup je trouve dommage qu'on enlève des choses aux médecins pour que médicalement, enfin, qu'ils soient plus disponibles. On leur enlève des gestes qui peuvent être faits par d'autres, sans forcément repenser en fond le système de soins. Voilà, moi, c'est plutôt ça qui me dérange. Après, je ne me sens pas tout dépossédée des vaccinations que je ferai, de grippe que je ne ferai plus. Mais ce qui est sûr, c'est que dans la rediscussion, enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Oui, c'est pas pensé, en fait.
C'est juste appliqué par mathématiques. Mm-hmm. C'est pas réfléchi. Et c'est vrai que moi, lors d'un renouvellement, donc c'était un renouvellement à 26,50 €, on discutait de toutes les fonctions, le sommeil, l'appétit, le transit, l'humeur, très bien. Je renouvelais le traitement et je faisais aussi la vaccination, mais je profitais d'une vingtaine de minutes où là je faisais tout, en fait. Et en fait, je faisais payer une consultation. Là, dans ma consultation, je ne fais que le renouvellement et puis on paye le pharmacien pour vacciner la personne. Alors que on aurait pu imaginer pas des forfaits vaccination, mais des choses qui rentrent en ligne de compte aussi pour nous, qui vont nous éviter. Enfin, parce que là, du coup, moi, il faut que je demande au patient, et vous êtes fait vacciner contre la grippe, parce qu'en fait, je ne le sais pas. Et enfin, voilà, je trouve que c'est pas pensé. Voilà, moi, c'est juste ça qui me questionne, c'est pas pensé.
Comme l'ensemble des problématiques politiques aujourd'hui.
Ouais. Oui. C'est fait au coup par coup à la petite, enfin ouais, pas la petite semaine, mais à court terme, voilà. Mm-hmm. Et en fait, c'est difficile, je pense, autant à la même intensité pour les éducateurs, l'éducation, que pour nous. Parce que quand on est dans une discipline où on pense à la globalité et au long terme, et ben des mesures à court terme comme ça, c'est très décevant et c'est destructeur, en fait.
Oui, tout à fait. Sur ce qu'on vous demande ou comment on vous surveille au niveau administratif, au niveau des, je sais pas, je pense aux arrêts de travail ou à d'autres choses. Comment vous le vivez, ça, dans votre pratique?
Alors moi, je le vis mal. Je le vis mal parce que ça donne l'impression d'avoir à se justifier comme si on faisait que de la complaisance, en fait. Comme si on ne mesurait pas l'impact que pouvait avoir l'arrêt de travail qu'on donnait. Et moi, ce que je trouve vraiment terrible, c'est que j'ai l'impression qu'il faut chercher un coupable. Hein, donc voilà, là, si on a trouvé les médecins, c'est déjà pas mal. Mais moi, sur les arrêts de travail, c'est toujours un... Alors, je ne dis pas que c'est toujours un cas de confiance, les arrêts de travail que je fais. Pas non plus que j'exagère, mais quand tu es quelqu'un qui est maltraité au boulot, et qui certes est payé avec un lance-pierre, qui fait un boulot de merde et qui se fait mal au dos un jour au boulot, et puis en fait il n'arrive plus à raccrocher parce qu'en fait il a décroché un coup une semaine, 15 jours, et ben c'est super compliqué de le remettre dans le milieu. En fait on passe du temps quand même à écouter les gens et à essayer de trouver des solutions. Enfin, on n'est pas complètement neuneux, on sait aussi l'impact que ça a économique, quoi. Ça, c'est pas par plaisir qu'on arrête les gens, et ça fait partie du traitement, hein, l'arrêt de travail. Ouais. C'est un traitement. Et du coup, ouais, c'est un peu trop mathématique. Enfin, les gens qui pensent que les arrêts de travail sont un peu exagérés, c'est ceux qui heureusement, ouais, je ne sais pas comment il faut dire pour eux, mais pas eu trop besoin. Ouais. Parce que c'est-à-dire les mecs en burn-out, ceux qui avaient des hautes idées du travail, et de l'efficacité, de l'efficience et tout ça, quand ils se retrouvent en burn-out, là, et qu'ils sont virés à 52 ans, parce qu'ils ne sont plus dans le coup, là, ça ne dérange pas de, d'avoir un arrêt de travail, le temps de trouver une solution, quoi.
Ouais.
Ça me peine beaucoup. Moi.
On va conclure sur le sur la question des frais de santé aussi, parce que j'ai vu que l'augmentation des frais de santé, 75% en 5 ans.
Ouais.
Est-ce que dans votre pratique, vous le constatez, est-ce que les gens ne viennent plus ou ne veulent plus se soigner ou ne peuvent plus se soigner? Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez sur le terrain?
Oui. Que des gens ne veulent, en tout cas, de consulter, non, parce que la consultation est remboursée, mais ne pas aller chercher les médicaments non remboursés qu'on pourrait mettre sur l'ordonnance. Oui, moi, c'est quotidien, ça. Je veux dire, j'ai des gens. Alors, je sais, les gens que je connais bien, ça fait 20 ans que j'exerce, les gens que je connais bien, je ne leur mets pas. Enfin, là, il y a eu récemment, par exemple, le déremboursement d'un produit qui marchait très très bien contre la constipation. Et ben effectivement, j'en mets un autre maintenant sur certaines ordonnances en disant lui il est plus remboursé, donc je vous le marque pas, je vous en mets un autre. Voilà. Et parce que je sais qu'ils le prendront pas, voilà, et que ça aura d'autres conséquences.
Et si on voulait finir avec une note d'espoir?
Oui.
Qu'est-ce que vous voyez dans ce ciel un petit peu couvert en ce moment, mais est-ce que vous voyez les éclaircies?
Ben, je pense qu'il y a, enfin, il me semble que c'est qu'on vit à un temps charnière et je me dis que ça va forcément déboucher sur autre chose et je me dis que tout ce qui est peut-être prévention, prise de conscience de l'exercice physique, de mieux manger, de mieux, peut-être que ça a sa place, ça. Enfin, peut-être que les gens vont prendre conscience, alors je dis pas tous, parce que voilà, mais avec l'éducation des enfants, de pas manger n'importe quoi, enfin, peut-être plus côté santé, prévention santé, je pense que ça va peut-être déboucher sur ça. Mmh. Et puis le travail collectif, la pluridisciplinarité, par exemple, avec des infirmières scolaires, d'être, que le maillage médical de prise en charge soit un peu plus... étayer localement. Moi, ça fait partie des choses quand même qui me... Les infirmières azalées, notamment, je ne sais pas si vous connaissez les infirmières de santé publique. Ça fait partie des choses que la Sécu a mis en place, hein, qui sont intéressantes. Des infirmières qui peuvent recevoir une heure les gens pour le sevrage tabac, pour l'obésité, pour les problèmes vasculaires. Non, le système va... Enfin, le système. Et puis les gens, c'est pas le système qui va faire bouger forcément les gens tout de suite, mais... Non, moi, je nature optimiste, hein, mais je pense que ça va déboucher sur quelque chose, mais pour l'instant, on n'en voit pas trop le...
On est dans le creux de la vague.
C'est ça, c'est ça.
T'inquiète plus, le chirurgien m'a dit hier que la gangrène n'a pas pris, que la chance est avec moi. Certes, je perds une